Attention, aujourd'hui, podcast exceptionnel, puisque j'enregistre ce podcast le jour même de sa publication et de sa diffusion, chose que je fais rarement, mais je trouve que par rapport au sujet que nous allons aborder, ça, en fait, ça correspond parfaitement. Ça correspond vraiment parfaitement au sujet que nous allons aborder, à savoir celui de la créativité de survie. Et donc, je vais me présenter pour ceux qui me découvrent. Je suis Pascal Roby, le créateur et l'auteur du podcast Les Racines de la Créativité. Je parle à l'encontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Et je laisse la place à des créateurs de contenu qui me partagent leur vision, leur histoire et leurs secrets autour de la créativité. Et de temps en temps, je partage également toutes mes découvertes, toutes mes trouvailles autour de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler du deuxième type de créativité que j'ai identifié il y a 2 ans, qui s'appelle la créativité de survie. Si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière qui était sur la créativité et l'expression de soi, je t'invite à le réécouter. Mais voilà, cet épisode, enfin l'épisode sur la créativité et l'expression de soi peut s'écouter indépendamment de celui que tu vas écouter maintenant, et évidemment celui qui viendra après, à savoir la créativité d'inventivité. Alors, la semaine dernière, donc comme je le disais, je t'ai parlé de créativité d'expression de soi, et maintenant nous allons parler de la créativité de survie. Alors, qu'est-ce que j'entends par créativité de survie? Je vais te donner une image qui va être extrêmement parlante. Se souviens-tu de la série Lost, Les Disparus? Donc, pour rappel, le pitch, c'est ce sont des rescapés d'un crash d'avion qui atterrit sur une île un petit peu mystérieuse où va se passer énormément de choses et ils vont devoir survivre dans sur cette île mystérieuse et dangereuse. Et donc, pourquoi je te reprends cette image d'être perdu sur une île? Parce que justement, quand tu te crashes sur une île déserte, bah, tu n'as pas d'autre choix que de survivre et te débrouiller pour créer les conditions de survie. Donc, par exemple, dès les premiers épisodes, tu vois que tu as le héros, donc Jack Shepard, qui essaye de recenser quelles sont les victimes et quels sont les survivants. Et ensuite, ils vont devoir se débrouiller pour aller chercher de l'eau ou se trouver un point d'eau. Voir s'il n'y a pas des endroits où pouvoir s'abriter quand il fait froid ou pouvoir se dormir. Donc, on est vraiment sur là, ce que j'appelle vraiment de la survie. Mais cette capacité de survivre, moi, c'est ce que j'appelle la créativité de survie. Parce qu'à partir du moment où tu fais face, et ça, c'est la définition de la créativité de survie, c'est à partir du moment où tu fais face à des contraintes et que tu es obligé d'y faire face, de les affronter, mais tu n'as pas d'autre choix que de devenir créatif. Rappel de la définition de la créativité de survie que j'avais identifiée, c'est quel que soit ton niveau de créativité, ton niveau de conscience ou ton niveau de développement personnel, il y aura toujours des contraintes. Et, entre parenthèses, je rajoute, plus ce niveau est élevé, plus les problèmes seront nombreux et d'un niveau beaucoup plus élevé si tu avais un niveau faible, un niveau de conscience ou un niveau de créativité beaucoup plus faible. Et ces contraintes, tu as toujours des contraintes, ces contraintes peuvent être physiques, psychologiques, matérielles ou sociales. Et donc face à ces contraintes, ben, j'ai identifié uniquement que 3 choix. Tu as uniquement 3 choix à faire face à ces contraintes. Tu peux soit subir ces contraintes et t'y soumettre, ou bien tu peux ne rien faire, et quoi qu'il arrive, bah tu vas les subir d'une manière ou d'une autre, ou alors tu peux utiliser ces contraintes comme cadre pour exprimer ta créativité, et je vais te donner quelques exemples de personnes qui font face à des contraintes et qui les utilisent pour exprimer leur créativité, leur personnalité. Alors, prenons contrainte physique. Exemple d'une contrainte physique. Pense à une personne qui a un handicap moteur, une personne qui est en fauteuil. Cette personne, elle ne va pas avoir d'autre choix que de se débrouiller. Elle peut pas marcher, tu vois, comme toi et moi. Peut-être que tu es en fauteuil, peut-être que tu comprends mieux ma situation. L'exemple dont je te parle, c'est déjà là-bas, c'était différent. Et tu vas pas avoir d'autre choix que de te débrouiller avec ton fauteuil, bah, pour réaliser ce que la plupart des gens, ce que le commun des mortels, va devoir faire pour réaliser ses gestes quotidiens. Juste prendre ta douche ou te déplacer. Juste faire tes courses, rien que pour toi, ça te demande beaucoup plus d'efforts que pour la plupart des gens normaux. Et rien que ça, ben, au départ, ça t'oblige à développer ce que j'appelle, moi, ta créativité, donc notamment ta créativité de survie. Pourquoi? Parce que tu vas devoir développer d'autres réflexes, d'autres comportements totalement différents de ce qui se fait, ben, pour pouvoir survivre face à cette contrainte. Bah, qui est ton handicap moteur. Ça, c'est voilà, une première contrainte. Après, il y a la contrainte psychologique. Alors, tu as des personnes, ça peut être quoi les contraintes psychologiques? C'est, imaginons que, allez, je vais prendre un cas extrême, mais au moins ça va te permettre de l'illustrer. Prenons une personne qui souffre d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, c'est une personne qui a des tocs verbaux et qui ne peut s'empêcher de dire des gros mots ou d'avoir aussi des tocs oui, verbaux et paraverbaux. Donc, c'est-à-dire, ça peut être des grognements, mais il ne peut pas s'en empêcher. Ben, ça, t'imagines que c'est un peu compliqué. Ben, cette personne-là, elle va pas avoir d'autre choix que de développer ben, des habitudes, en tout cas des stratégies. Pour pouvoir faire ses courses, faire ses courses, aller peut-être faire sa séance de sport, aller en cours, aller travailler, va pas avoir d'autre choix que de développer des stratégies totalement différentes bah, pour pouvoir survivre par rapport à ses contraintes. Contraintes matérielles. Bah, prenons l'exemple le plus simple. Le confinement. Le confinement, c'est un. Bon, confinement, lui, il a eu tous les impacts. Tu vois, là, lui, on peut dire que ça a été physique, psychologique, matériel et social. Vraiment, lui, c'est salade tomate-oignon. Donc, très mauvais exemple pour illustrer une contrainte matérielle. Mais moi, je prends souvent l'exemple de mon frère qui, quand il n'a pas les moyens d'investir, qui se dit, bon, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre. Lui, c'est quelqu'un qui adore bricoler quelque chose en attendant de pouvoir investir. Et c'était bon, lui, il est extrêmement doué dans une très grande créativité de survie parce que c'est un grand bricoleur et bon, moi je suis admiratif de ça. Et quand il n'a pas le matériel qu'il faut, je dis bon, c'est pas grave, je vais bricoler quelque chose, voilà, pour dépanner jusqu'à ce que je puisse investir dans quelque chose. Voilà, on va dire de neuf et dans lequel il va pouvoir s'en servir. Et moi je me souviens par exemple d'outils, on va dire, par exemple, quand il faisait de la mécanique, il disait, bon, j'ai pas le matériel, et ben on va se débrouiller avec les outils que j'ai, on va comprendre comment ça fonctionne, et puis bah juste avec un marteau et puis un tournevis, t'es capable de faire des miracles. Donc ça c'est par exemple contrainte matérielle. Après, tu as la contrainte sociale. Exemple de contrainte sociale. Mais quand tu es à l'étranger et que tu ne parles pas la langue du pays dans lequel tu es, imaginons tu es au Japon et tu parles que français et potentiellement anglais. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'au Japon, c'est que la plupart des gens ne parlent que japonais. Là, tu vas pas avoir d'autre choix que de devenir créatif pour te faire comprendre. Exemple de créativité sociale. Alors, maintenant tu vas me dire, ok, c'est marrant. Tu m'as partagé des exemples de créativité de survie, je vois bien où tu vas en venir. Ok, mais moi, je fais comment pour dépasser ces contraintes? Parce que voilà, on n'a qu'une envie, c'est de les dépasser. Alors en plus, si tu lis un peu de développement personnel, on te dit, oui, il faut toujours se dépasser, il faut toujours aller au-delà de soi. Et en soi, c'est ok. C'est toujours ok de dire, ouais, tu dois dépasser tes propres limites. Et ça, c'est cool. Mais il y a un truc que j'ai appris en créativité, c'est que tu ne dépasses jamais tes contraintes. D'abord, tu les acceptes. comme faisant partie du réel, et ensuite tu commences à t'amuser avec. C'est totalement différent de dire ouais, je vais me dépasser, je vais aller au-delà de mes limites. Ce que j'ai compris, moi, en créativité, c'est de me dire, bon, au lieu de vouloir dépasser mes limites, je vais plutôt accepter déjà que j'ai des limites, et surtout être super clair sur mes limites. Et ça, c'est la première, c'est la première chose à comprendre, c'est que ouais, t'as des limites. Et c'est pas une tare, hein. Il y a des choses pour lesquelles tu es incapable de faire, tu as une limite à laquelle tu ne peux pas dépasser. Et c'est ok. Après, libre à toi de vouloir traverser cette limite. Mais ça, après, ça t'appartient. Moi, j'aime bien la notion de frontière. Cette notion de frontière, je l'ai redécouverte à travers un bouquin qui est Les frontières dans les relations humaines d'Anne Linden, qui explique que c'est super important pour un être humain d'avoir des frontières. Parce que ces frontières lui permettent de délimiter ce qui est, ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Et donc c'est intéressant le concept de frontières parce que déjà ça existe dans la réalité. Les frontières géographiques, elles t'expliquent déjà, elles te montrent que les frontières, elles ne sont pas là pour rien. Bon, tu as les frontières géographiques, c'est-à-dire que tu as des montagnes qui vont séparer deux pays. T'as des fleuves qui vont séparer deux pays. Autant les respecter. Parce que tu sais qu'à partir du moment où tu traverses une frontière, ben tu n'es plus chez toi. Et tu dois respecter les règles qui se trouvent dans cette frontière. Et ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce retour des frontières. Parce que bon, dans un monde qui a voulu détruire et déconstruire ses frontières, tu t'aperçois que pour un être humain, c'est super important d'avoir des frontières. Parce que ces frontières-là, ce sont des repères. Les frontières servent de repères. Et quand on détruit des repères, c'est compliqué de s'appuyer dessus. Hein. Et c'est compliqué d'avoir une posture et un positionnement stable sur lequel t'appuyer et sur lequel tu peux te dresser. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de reconnaître ses limites et de dire, non, non, mais ça ici, c'est pas possible. Par contre, c'est bien de les reconnaître, mais derrière, tu dois aussi être capable de prendre la responsabilité. Donc tu es responsable de tes propres limites et tu te dis, ok, là aussi ok, je peux aller plus loin. Parce que le problème, c'est que les contraintes, c'est bien les contraintes, mais à un moment donné, si tu n'agis pas dessus, c'est elles qui vont prendre le dessus. En approche systémique, on dit le système est toujours plus fort que l'individu. Et c'est également vrai pour les contraintes. Ce n'est pas toi qui as la mainmise sur les contraintes, ce sont les contraintes qui vont réguler ta façon d'agir. Donc, au lieu de dire ouais, je vais dépasser mes limites, pense plutôt ainsi. Pense plutôt, ok, quelles contraintes vont me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Et là, on est dans une autre logique. Là, on n'est pas dans je vais dépasser mes limites, mais plutôt, ok, quelles sont les limites, quelles sont les contraintes, quelles sont les frontières qui vont me permettre de devenir beaucoup plus créatif? Et là, c'est un autre jeu. Là, tu commences à jouer, parce que là, tu ne passes plus en mode victime, tu es en mode créateur. Alors, une façon de passer du mode victime au mode créateur, on revient à ce que j'ai dit, c'est d'abord accepter. D'abord, on accepte les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on le voudrait. Ensuite, quand on a accepté les choses telles qu'elles sont, on peut les affirmer, et la meilleure façon d'affirmer quelque chose, ça passe par la verbalisation. Ça peut être, par exemple, je reconnais ce qui est. Et ensuite, c'est d'assumer. Et assumer, ce n'est pas uniquement de verbaliser, ça se traduit dans tes actes, dans tes comportements. Exemple concret, j'ai accepté que j'avais un gros défaut, c'est celui d'être arrogant, narcissique et égocentrique. Je l'affirme en te le partageant, et puis je l'assume à travers certains comportements. Notamment le fait que, par exemple, là, j'en ai rien à taper de ne pas faire de montage et de te le partager tel quel. Et même s'il y a des erreurs, Même si je bafouille, même si c'est pas parfait, bah, je m'en fous parce que je le fais. Et puis si t'es pas content, tu peux dégager, quoi. Donc voilà. Donc un exemple de ce que j'appelle la règle des 3A, accepter, affirmer, assumer. Autre façon de dépasser ses contraintes, je t'ai expliqué que c'était important de connaître tes limites. Maintenant, c'est aussi important de cartographier le terrain sur lequel tu vas jouer. Par exemple, tu veux lancer un podcast. Ouais, c'est cool. Bah, ce qui peut être sympa, c'est de cartographier c'est quoi le terrain du podcast. De quoi tu as besoin, comment ça fonctionne, c'est quoi l'écosystème, c'est quoi l'environnement autour du podcast. Là, c'est vraiment d'aller chercher des informations pour te dire, ok, je veux lancer mon podcast. Quelles sont les armes, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin pour pouvoir me lancer dans la guerre du podcast. Et j'utilise le mot guerre par rapport au livre de Sun Tzu, L'Art de la guerre. Parce que Sun Tzu consacre un chapitre entier et même plusieurs passages sur l'importance bah, de bien connaître le terrain, le champ de bataille sur lequel tu vas engager la guerre. Et ça, c'est vraiment super important bah, de déterminer dans quoi tu t'embarques. Je dis ok. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, ok. D'abord, regarde sur quel champ de bataille tu vas t'engager. Regarde d'abord les autres entrepreneurs qui se sont lancés dans le champ de bataille. Regarde leurs résultats. Et ensuite, dis-toi, ok, est-ce que j'ai envie de m'y engager ou pas? Par exemple. Enfin, il y a ce que j'appelle la règle des 3 E pour débloquer ta créativité de survie. Ça, j'y consacre un chapitre dans mon livre Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Alors, qu'est-ce que j'appelle la règle des 3 E pour débloquer ta créativité de survie? Alors, les 3 E, c'est simple, c'est essai, erreur, enseignement. T'as beau avoir cartographié le terrain, t'as beau connaître tes limites, tu peux prendre ta responsabilité, c'est cool. Mais à un moment donné, tu vas devoir tester. À un moment donné, tu vas devoir te lancer. Et plonger dans le grand bain. Bon, pour ça, tu pourras faire appel à ta créativité d'expression de soi, et ça, c'est cool. Mais tu n'as pas d'autre choix que de tester. Et très souvent, quand tu vas tester une action, quand tu vas par exemple enregistrer un premier podcast, ce ne sera pas parfait. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est les enseignements que tu vas tirer de cette erreur. Et ok, c'est pas grave, bon, c'était pas parfait, cool. Qu'est-ce que je dois améliorer? Et tu continues. Même si la deuxième fois, c'est pas parfait, c'est déjà mieux que la première. Pourquoi? Parce que tu sais déjà ce qui se passe. Tu as déjà exploré le terrain. Quand tu enregistres un épisode de podcast, je reprends toujours ces mêmes exemples, mais ça vaut dans d'autres. Quand tu as fait une première fois, quand tu as enregistré ton premier épisode de podcast, bah tu sais comment ça se passe. Donc forcément, tu as beaucoup moins d'appréhension. Et donc, tu vas apporter d'autres choses. Tu vas libérer ta créativité d'expression de soi. Tu vas en lâcher un peu plus. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu vas pouvoir réajuster derrière. Parce que derrière, tu vas avoir des retours, tu vas avoir du feedback. Et ça, c'est quelque chose de super important qu'on verra ben, la semaine prochaine dans la créativité d'inventivité. D'avoir du feedback, du retour. Ça, c'est super important. Donc, essai, erreur, enseignement. Après, il y a d'autres qualités à développer pour continuer à débloquer cette créativité de survie. Il y a notamment ce que Scott Belsky appelle le Tao du follow-up. Le Tao du follow-up, c'est quoi? C'est, même si ça marche pas, c'est de continuer à réitérer l'expérience jusqu'à ce que ça fonctionne. Bon, tu as Thomas Edison, lui, qui a sa célèbre citation qui dit non, mais la créativité, c'est 1% de génie et 99% de transpiration. Pour te dire que pour lui, ça sert à rien en fait d'être un génie théorique. Le plus important, c'est ce que tu fais. Et puis, ben, quand tu repenses justement à Thomas Edison, bon, on te regurgite souvent la même expérience, voilà, de ces 9999 échecs avant qu'il réussisse à créer l'ampoule. 9999 essais. Faut être patient, il faut être persévérant. Et d'un autre côté, donc c'est bien d'être persévérant, mais de l'autre, c'est aussi bien de savoir quand abandonner. Parce que il y a des choses, j'ai trop longtemps été dans ce mode où, quoi qu'il arrive, même si je vais échec sur échec, je fonce jusqu'à ce que je me dise, ça va réussir. Et le gros problème, c'est parfois, on n'a pas envie de se poser la question, oui, mais, et si finalement, la meilleure chose pour moi, c'était d'arrêter. Et si finalement, pour devenir plus créatif, je n'aurais pas besoin de m'arrêter. Et ça fait mal au cul. Ça, honnêtement, ça pique. Alors, tu vas me demander, oui, d'accord, mais quand est-ce que je sais que je dois abandonner, que je dois arrêter? Bon, en fait, oui, abandonner. En tout cas, oui. Quand est-ce que je dois le faire? Oui, ça fait chier, hein, d'abandonner. On est d'accord, ça fait chier. Là encore, je vais revenir sur l'approche systémique parce que c'est là encore, c'est là où j'ai peut-être trouvé les bonnes ré les, enfin, les réponses les plus pertinentes. Pas les bonnes, mais en tout cas les plus pertinentes. En approche systémique, quand on veut amener un changement, il y a deux types de changements. Il y a le changement de type 1 et le changement de type 2. Le changement de type 1, c'est par rapport au comportement. C'est changer une attitude, un comportement par rapport à un objectif. Tu as l'objectif de lancer, donc tu veux lancer ton podcast. Et par exemple, bah, tu fais comme moi, tu enregistres comme ça, à la va-vite, sans préparer comme ça, à l'improviste. Et tu y vas, tu te dis, ok, je le fais. Et tu fais 1, 2, 3, 4, 5 essais, et tu te dis, putain, j'y arrive pas, je sens qu'il. C'est pas possible. Je peux pas aller au bout. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais peut-être que là, il faudrait peut-être que tu changes ta méthode, que tu changes ton habitude de faire ton épisode. Et par exemple, bah, de préparer des notes pour lancer, pour enregistrer ton podcast. C'est ce que j'ai fait. Alors, tu vois, là, par exemple, avant, je faisais beaucoup, tu vois, en impro. Et là, pour cet épisode. Même si tu vas l'écouter aujourd'hui, donc ce jour-là, bon, toi, si tu l'écoutes un peu plus tard, tu t'en fous, ça veut rien dire, c'est juste pour moi. Mais là, par exemple, moi j'ai des notes. J'ai mes notes et je sais exactement ce que je dois dire. Alors, c'est juste une idée, tu vois, j'ai pas tout le texte, mais c'est juste une idée, puis après je déroule. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas, pour cet épisode-là. Tout simplement parce que bah, j'ai abandonné la méthode, l'habitude, le comportement qui m'emmenait dans un état de frustration. Changement de type 1. Et puis, bah, tu as le changement de type 2. Et le changement de type 2, celui-là, il est beaucoup plus difficile à cerner parce que celui-là, bah, il concerne l'objectif en lui-même. Il concerne bah, le but ou les valeurs que tu vas rechercher derrière. Et celui-là, bon, il demande un peu plus de temps et très souvent, c'est un coach qui va t'aider à identifier bah, quel est le but que tu poursuis, par exemple, derrière un podcast ou est-ce que. C'est lancer un podcast qui est important ou est-ce que tu ne veux pas chercher autre chose? Quel est le but derrière? Est-ce que lancer un podcast, c'est le but ou est-ce que ce n'est qu'une façon, qu'une méthode pour atteindre un objectif, un but beaucoup plus grand? Et ça, bah, il n'y a que toi, un travail d'introspection ou un travail de coaching qui va te permettre de t'aider à identifier si. Bah, le projet podcast, je dois l'abandonner ou bah, je dois le repositionner dans un projet beaucoup plus grand. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à la créativité de survie. Si cet épisode t'a plu, bah, partage-le à toutes les personnes qui l'ont, enfin, à qui ça pourrait parler. Alors d'habitude, tu vois, je fais toujours abonne-toi aux racines de la créativité en début, mais on va le faire maintenant. Abonne-toi aux racines de la créativité si ce n'est pas encore fait. Tu peux tout simplement t'abonner sur les plateformes les plus improbables et les plus bizarres de la planète. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Castbox, Podcast Addict et plein d'autres. Ou si tu veux retrouver toutes ces plateformes et savoir sur quelle plateforme je suis distribué, va sur le lien encore.fm des racines de la créativité et là. Au moins tu seras servi. Et écoute, j'ai encore passé un super moment avec toi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si t'en veux, si tu veux être un peu plus proche de moi, savoir bah, ma façon de penser, ce que je pense autour de la créativité, tu peux t'abonner dans la. Ça se trouve dans la description à ma newsletter. Abonne-toi à ma newsletter. De temps en temps, je partage quelques mails plutôt sympathiques. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!